Bienvenue à vous, nous sommes en direct à Montréal au Forum Social Mondial. Demain c'est pas si loin est une quotidienne qui traite d'un sujet d'une thématique de la société civile. Aujourd'hui, nous allons parler d'éducation populaire. L'éducation populaire est une forme d'éducation, de transformation individuelle qui engendre une action collective et un changement dans la société. L'éducation populaire permet aussi le développement de l'esprit critique par la confrontation d'idées diverses. L'éduc-pop existe partout dans le monde, sous le nom d'Informal Education, et cela existe depuis plus d'un siècle. Pour parler de cette thématique avec nous, nous recevons Lucille Ottolini, des Petits Débrouillards, membre du conseil d'administration de cette association et salariée depuis 3 ans. Bonjour Lucille.
Bonjour Pierre.
Alors Lucille, première question. Pourquoi la science est nécessaire pour comprendre le monde ?
Alors, je vais te répondre pour les Petits Débrouillards. Nous, la science, on s'en sert pour 2 choses. On s'en sert comme objet, puisque dans le quotidien des gens, c'est de plus en plus important. Les enjeux du réchauffement climatique, en fait, aujourd'hui, ils concernent tout le monde. De la même manière, la gestion de l'alimentation ou de l'agriculture à l'échelle d'une ville ou d'un bassin de vie, ça concerne aussi tout le monde. Et à l'inverse, enfin, dans d'autres champs, la gestion de ton ordi, elle te concerne aussi. Dans une société où les progrès techniques et scientifiques sont de plus en plus présents dans la vie quotidienne des gens, on repart de ces objets pour questionner la vie quotidienne. Donc ça, c'est le premier truc. La science, c'est un objet de compréhension en fait, de notre quotidien au XXIe siècle. Okay. Après, la science, on l'utilise également, au Petit Débrouillard, plutôt sur l'approche pédagogique. Nous, la méthode expérimentale, c'est ce qui nous permet de travailler. Donc, la méthode expérimentale, je fais des observations, je pose des hypothèses, je teste mes hypothèses, après j'en tire une conclusion. Donc ça, c'est à la base de notre pédagogie. Voilà, donc à la fois la science comme objet et comme méthode de travail au Petit Débrouillard.
Quel est le projet politique de cette culture scientifique chez les Petits Débrouillards ?
Alors, nous... Moi, j'ai déjà un petit peu de mal, en fait, avec cet enjeu de culture scientifique. Je pense que pour les Petits Débrouillards, même en objet et en méthode, cette culture scientifique, en fait, elle est qu'un moyen. Et tu le disais d'ailleurs hein, dans l'introduction, tu dis l'éducation populaire, l'enjeu, c'est une prise de conscience individuelle pour une transformation sociale collective. Un esprit critique individuel pour une transformation, un projet de transformation collectif. Mais nous, on repart de ça. Notre objectif, c'est l'éducation à l'esprit critique. On n'a pas d'enjeu de transmission ou de montée en expertise. Notre enjeu principal, c'est que chacun puisse faire des choix raisonnés et éclairés. À partir de là, les décisions ne nous appartiennent pas.
Peux-tu nous expliquer un moment extraordinaire que tu as vécu au sein des Petits Deb?
J'ai le droit de t'en raconter 2?
Ouais.
Ok. Bon, le premier moment que j'ai vécu, du coup, c'était il y a 4 ans, en fait, quand je suis arrivée. Au bout de 2 mois, j'étais bénévole et volontaire et j'ai organisé mon premier débat. Alors, j'ai organisé et animé. Donc, au bout de deux mois dans cette association, on te laissait la place d'organiser un événement sur une question qui était un petit peu... la question qu'on se posait le soir-là, c'était les liens entre neurosciences et psychanalyse. A priori, c'est plutôt à destination d'une petite communauté. On a organisé ça dans un PMU de quartier. On avait des psychanalystes, des neuroscientifiques et des acteurs de l'éducation populaire comme intervenants. Ces gens, dans la ville où on bossait, ne s'étaient jamais rencontrés en conférence. Et quelques heures avant le débat, il y a tous les intervenants qui m'appelaient en me disant « Mais vous êtes sûr que c'est là ? Vous êtes sûr que c'est là ?» Mes collègues qui m'appelaient en me disant « Non mais n'importe quoi, neurosciences, psychanalyse, tout le monde en a rien à foutre. » En fait, on s'est pointé le soir. Il y avait tous les piliers de comptoir de ce PMU qui étaient présents, qui ont participé au débat. On a accueilli 100 de personnes. Bon, les intervenants sont repartis un peu... pas hyper contents par contre qu'on les ait pas laissés déployer un discours figé. Ça, c'était vraiment mon enfin, mon premier souvenir assez drôle, c'est comment tu passes, en fait, tu arrives à la fin de tes études, dans une posture un petit peu d'expertise comme ça, et tu viens re-questionner ça et l'élargir, en fait, avec la confrontation à d'autres. Puis, mon deuxième gros souvenir, je pense que c'était en janvier 2015, on a participé, depuis 2013, à la création d'une plateforme pour une alliance science-société avec des acteurs de la recherche, des acteurs de l'administration, des acteurs du monde associatif et des acteurs de l'entrepreneuriat. En janvier, on a organisé un colloque forum à Paris qui a accueilli plus de 1000 personnes, 300 intervenants du monde entier, et c'était durant tous les attentats, du 7 au 9 janvier. Bernard Maris et Charles devaient intervenir l'après-midi du 7 janvier dans le colloque. C'était vraiment très à vif, quoi, comme expérience. Et puis, depuis, on a organisé des soirées hommage à Bernard Maris avec d'autres dans un collectif qui s'appelait Salut Bernard. Et on a inauguré en janvier cette année, un an après ce colloque-là, la première chaire universitaire écologie et politique qui est à l'UNESCO. Donc là, c'est à la fois un travail très institutionnel, mais avec des acteurs qui se rencontrent pas, et puis de l'autre côté, un travail quotidien de terrain où tu vas rencontrer le quidam, ton voisin, en fait, sur les questions que tu peux te poser. Donc c'est deux pans chez les petits débrouillards qui sont importants pour moi.
Selon toi, quelles sont les choses qui te passionnent au sein de l'éducation populaire ?
Alors, l'éducation populaire, dans les valeurs dont tu parlais tout à l'heure, pas forcément dans tous les espaces. Du coup, dans les valeurs, moi, ce qui me passionne, c'est la capacité à produire des parcours d'émancipation où tu vas toujours pouvoir aller plus loin, tu vas rencontrer de nouveaux acteurs. Mais bon, maintenant, là, je suis... Excusez-moi, à Montréal, il fait super froid, j'ai chopé une angine. Non, ce qui m'intéresse dans l'éducation populaire, c'est les possibilités de croisement. On n'est pas les seuls à savoir et c'est ça qui est assez précieux, je pense. C'est l'élargissement des communautés. Et moi, c'est ce qui fait que je continue, quoi.
Ouais, moi, je suis tout à fait d'accord là-dessus. Je voulais savoir, quelle est ta définition des communs dans le secteur de l'éducation populaire ? C'est quelque chose qui est très peu connu vis-à-vis du monde de cet univers-là. Je sais qu'au sein des petits débrouillards, vous avez pas mal développé des choses autour de cette notion. Peux-tu nous la présenter ?
Alors, les communs, nous, on a commencé, en fait, historiquement, on travaille principalement dans les quartiers un petit peu... moins favorisés en tout cas, et plutôt en milieu urbain. Et donc dans ces quartiers-là, en fait, nous on est rentrés par les communs, un petit peu désespérés du manque d'identité valorisante. Et du coup, on a commencé en fait à bosser avec les clubs de gamins sur qu'est-ce qui te plaît dans ton quartier. À partir de 2006, tous les débats sur la biodiversité, mais la biodiversité, il y en a aussi dans ton quartier. Comment tu fais toi pour la cartographier, pour la conserver, pour la redévelopper après, avec... en tout cas, du coup, passer au-delà d'une posture très condescendante. C'est pas nous qui allons identifier les communs dans les quartiers politiques de la ville, quoi. C'est les gamins eux-mêmes qui savent quels sont les communs de leur quartier et ils y vivent. Donc c'est revaloriser en tout cas leur savoir de leur lieu de vie. Donc on est rentré en fait comme ça, un peu pragmatiquement, mais un peu comme tout le monde, je pense, sans mettre le mot commun dessus, quoi. Après, on a continué parce qu'on travaille pas mal avec les communautés de bidouilleurs, de makers, on partage des Fab Labs ou d'autres espaces collectifs comme ça. Et du coup, ces communautés-là commençaient à en parler. Donc voilà, on a commencé à en parler avec nos copains, quoi, les soirs en bidouillant. Et puis après, du coup, en préparation du colloque forum dont je parlais juste avant, qui était plutôt un enjeu de partage de questions politiques communes à travers les croisements d'acteurs, on a eu un séminaire de préparation avec ces communautés-là. Et là, du coup, on a vraiment commencé à en faire un objet politique dans notre mouvement des petits débrouillards. Ce qui n'était pas jusque-là, hein. Initialement un objet pratique, après un objet de partenariat avec les réseaux qui nous sont proches, et là, depuis 2-3 ans, un objet politique. Et en fait, moi, ce qui me plaît pas mal dans les communs, là, en plus, on sort de 3 jours de Common Space le premier Common Space au sein du FSM. Ce qui me plaît, c'est que on a été très échaudés dans le mouvement par les débats justement sur le développement durable. Et le moment où ces mouvements-là ont raté la politisation en devenant des labels de politique publique complètement vides de pratiques et de transformation. Après, on a vécu du coup là, à partir de 2010 et jusqu'à ces dernières années, pareil, la politisation de l'économie sociale et solidaire. Et de la même manière, on ne s'y retrouve plus. Et là, en fait, on sort du Common Space. Il me semble que les acteurs partagent à peu près tous pour l'instant la volonté de ne pas rentrer dans ces démarches de labellisation, de ne pas rentrer sur des démarches de... Ok, on n'a pas les mêmes définitions des communs, mais en fait, on s'en fout. Et les communs seront définis par les usages dans les communautés. Et tant que ça... Enfin, en tout cas, du coup, moi, je crois que ça, c'est... Je suis désolée. C'est ce qui, au petit débrouillard, en fait, fait sens par rapport à ces précédents débats dont je parlais. Simplement, juste aussi pour replacer, là, je parle de débats à partir des années 2000. Nous, on a 30 ans en France et on est devenu gros à partir du début des années 2000. Donc, on est encore... on est des bébés de l'éducation populaire, quoi.
Et selon toi, est-ce que les communs seraient l'avenir de l'éducation populaire ? Et sous quelle forme cela se prendrait ?
De l'éducation populaire, je ne sais pas. Après, nous, là, ce qu'on débriefait hier soir au sein de la délégation Petit Débrouillard, toute petite délégation de 6 personnes, dont 5 ne sont jamais allées au FSM, moi en particulier, même si on s'est... On a participé à des processus FSM sur les deux précédents. À chaud comme ça, pour nous, c'est plutôt là qu'on identifie le potentiel de transformation globale dont on parlait. Dans les objectifs de l'éducation populaire, il y a une expérience individuelle vers une transformation collective. Et du coup, on a... Enfin, pour l'instant, en tout cas, tant que il n'y aura pas de comment dire de
expérimentation, je sais pas,
ou alors on va suivre de près, de toute façon, là, la politisation avec ce qui vient de se passer sur les élections à Barcelone, à Madrid. On suit quelques expériences de un peu plus grande échelle là qui se lancent et qui sont institutionnelles. On va voir, mais nous, pour l'instant, c'est les questions politiques sur lesquelles on va travailler un peu plus, quoi.
Ben, merci beaucoup, Lucille, de cette interview. Et on vous souhaite une bonne fin de journée en vous à Paris. Et merci à vous de nous avoir suivis durant cette semaine. À bientôt.